Et les matins se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Il a choisi de s'adresser au grand patron pour sa première prise de parole de rentrée. Jean Castex inaugurera l'université d'été du MEDEF ce midi. Mais le Premier ministre ne doit pas oublier les salariés en pleine crise économique. Ce sont eux qui font tourner le pays, prévient ce matin Force Ouvrière.
Et ce sont les représentants des salariés justement qui négocieront avec la direction d'Aéroports de Paris pendant un mois. Il sera question de la réorganisation du groupe pour réduire l'activité.
Une prix Nobel de littérature est convoquée aujourd'hui par les autorités de la Biélorussie. Un symbole de la pression qui s'accroît encore sur les opposants dans le pays. Nous irons dans la région.
Et puis direction ensuite le Brésil où 4 vaccins sont testés en ce moment. La population s'y prête volontiers, vous l'entendrez.
Des vaccins effectivement contre le Covid-19. Dans un quart d'heure, zoom sur les livres d'anciens présidents. Dans le billet politique, Frédéric Seyss se demandera pourquoi est-ce qu'ils se vendent par centaines de milliers en ce moment. Les prêts garantis par l'État resteront particulièrement avantageux pour les entreprises. Voici la déclaration du ministre de l'Économie hier, Bruno Le Maire, alors qu'aujourd'hui, le Premier ministre Jean Castex va inaugurer l'université d'été du MEDEF auprès des grands patrons. Une séquence importante, signe visible du soutien que veut apporter l'État à l'industrie française. Mais attention à ne pas oublier les salariés et leur pouvoir d'achat. L'entreprise est importante, mais ceux qui y travaillent le sont plus encore. Voilà ce que dit ce matin Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière.
Nous estimons que l'on ne doit surtout pas opposer les salaires et le pouvoir d'achat à la relance. La consommation des ménages est un facteur de l'activité économique dans notre pays. Et nous plaidons en particulier pour que les métiers très nombreux de ce qu'on a appelé la deuxième ligne, toute la chaîne de l'approvisionnement, les caissières, les transporteurs, mais également les salariés des entreprises de nettoyage, les aides à domicile, des contrats précaires, tous ces métiers-là soient reconsidérés, revalorisés à leur juste valeur pour la société. Il faut protéger le pouvoir d'achat, voire s'appuyer sur une relance par l'augmentation des salaires, du SMIC, du point d'indice dans la fonction publique, contrairement à ce qui a été refusé récemment par le gouvernement aux agents de la fonction publique.
Jean Castex va-t-il donc penser à parler aux salariés autant qu'à leur patron? Je vous le disais, le Premier ministre inaugure ce mercredi l'université d'été du MEDEF à l'hippodrome de Longchamp. C'est le début d'une importante séquence de communication, Stéphane Robert.
Il n'y a aucune ambition personnelle dans l'offensive médiatique de Jean Castex, assure les services du Premier ministre. La baisse dans les sondages, il s'en moque, il l'a toujours dit. Et il n'y a aucune volonté de compenser son déficit de notoriété par rapport à son prédécesseur Édouard Philippe, assure encore Matignon. Jean Castex semble quand même avoir du mal à exister, à imprimer sa marque, malgré une forme de suractivité depuis sa prise de fonction. Ça tient sans doute au fait que, beaucoup plus qu'avec l'ancien Premier ministre, on voit bien que ce n'est pas lui qui décide. Quand il a été nommé au début de l'été, il voulait faire son discours de politique générale au plus vite et commencer à travailler. « Ah non, non, non !» lui a-t-on rétorqué. « On va attendre que le président ait parlé le 14 juillet. » Pour le plan de relance, cette semaine, il avait tout préparé, les annonces, le plan de communication. « Ah oui, mais en fait, on va reporter d'une semaine, lui a-t-on expliqué, à cause du coronavirus. C'est Macron qui a décidé. » Lui, Jean Castex, apparemment, n'y était pas favorable. Mais il s'exécute, le Premier ministre. Il faut rassurer les Français face à une nouvelle progression du virus. Il sera ce matin sur France Inter et il donnera une conférence de presse demain. Il faut donner des gages aux entrepreneurs. Il se rendra cet après-midi à l'université d'été du MEDEF. Le monde de la culture est inquiet. Il ira demain encore à la rencontre de ses représentants au ministère rue de Valois et aussi vendredi au Festival du film francophone à Angoulême. En se démultipliant encore une fois à la veille de la rentrée, Jean Castex semble avoir pour mission d'inaugurer une autre phase du en même temps, à la fois faire face à une reprise de l'épidémie et relancer l'économie.
Et pour faire face à cette épidémie de Covid-19, les bars, les restaurants seront fermés dans les Bouches-du-Rhône toutes les nuits à partir d'aujourd'hui, entre 23h et 6h du matin. L'idée est d'éviter en cette rentrée des rassemblements et notamment des rassemblements de jeunes. Mesure plus stricte encore à Marseille, où sera aussi obligatoire le masque pour les personnes de plus de 11 ans, dès ce soir et jusqu'au 30 septembre au moins. Car sachez qu'à Marseille, sur 100 000 habitants, 177 en moyenne sont testés positifs, contre 131 dans le département et 33 habitants seulement sur 100 000 au niveau national. Voici maintenant un exemple des conséquences économiques de la crise sanitaire. Nous l'avons souvent souligné ici même, le secteur aérien souffre. Avec un trafic en baisse, il cherche à s'adapter, se réinventer, à être surtout plus efficace. Chez ADP, Aéroports de Paris, cela va passer par des accords sociaux. Des négociations d'un mois débutent aujourd'hui, mercredi, sur les performances collectives de l'entreprise, sur une possible activité partielle longue durée et puis sur un dispositif de rupture conventionnelle collective, Annabelle Grelier.
C'est quasiment un test grandeur nature des ordonnances Macron de 2017. Quand on sait que l'État est l'actionnaire majoritaire, autant dire que la pression pèse sur la direction d'ADP pour mener à bien ces négociations. C'est d'ailleurs le numéro 2, Edward Arkwright, qui va les mener. Il faut dire que la situation est inédite. Alors qu'il y a moins d'un an, le groupe réfléchissait comment accompagner la croissance. Désormais, il doit tout revoir à la baisse. Une baisse radicale qui commence par celle du trafic, qui n'a même pas atteint en juillet le quart de ce qu'il était l'année dernière. Une baisse de 77% quand ADP en attendait dans ses pires prévisions tout au plus 70%. Il faut donc aller vite et fort. 60% de salariés d'ADP sont en activité partielle. La situation ne peut durer très longtemps. Les syndicats, de leur côté, eux, se sentent entraînés dans ces négociations comme pris dans un piège dans lequel, jusqu'à tard hier soir, ils refusaient de mettre un pied. La direction aurait déjà concédé de rallonger le calendrier jusqu'à fin octobre et promis un chiffrage des départs envisagés. Calendrier et méthode, ce seront donc l'objet de cette toute première journée de négociation qui commence dans une ambiance tendue et un dialogue dégradé, déplorent les syndicats, quand il faudrait au contraire pour négocier de tels accords beaucoup de confiance. En effet, ce sont beaucoup d'efforts que vont devoir concéder les salariés. Le plus gros morceau, le plus redouté, reste l'accord de performance collective qui passe par des baisses de salaire, des augmentations de temps de travail et de la mobilité géographique. Des efforts qui pourraient durer un certain temps, le groupe ADP n'envisageant un retour à la normale du trafic qu'entre 2023 et 2027.
De l'autre côté de l'Atlantique, American Airlines était plus positif à anticiper la fin de l'épidémie pour cette rentrée 2020. L'actualité nous montre qu'il n'en est rien. La compagnie aérienne américaine pourrait donc licencier 19 000 salariés et ce, si elle ne reçoit pas d'ici deux mois de nouvelles aides de la part du gouvernement américain.
8h07 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Une prix Nobel de littérature est convoquée par les autorités bélarusses aujourd'hui.
Oui, cet après-midi à 15h dans les bureaux de la police de Minsk, Svetlana Alexievitch doit y répondre des accusations de menaces contre la sécurité nationale, accusée en somme de s'opposer au président Loukachenko. Et même si cela pourrait ne pas peser bien lourd, l'auteur du livre La Supplication est soutenu par toute une partie du pays, comme l'a constaté Eric Biegala, témoignages à l'appui.
À l'école primaire, raconte Alena, la trentaine, on nous faisait lire ses livres, particulièrement celui sur Tchernobyl, la catastrophe nationale de l'URSS. Pour Roman également, lui aussi expatrié en Lituanie, Svetlana Alexievitch est une sorte de trésor national.
Elle représente la mémoire que nous devons garder en tant que nation de l'ancienne Union soviétique. Une mémoire que nous devons entretenir si nous voulons un avenir meilleur.
Le symbole que l'écrivaine représente est tel que nombre d'opposants, comme Natalia, la quarantaine, n'imaginent même pas que le régime puisse oser la mettre en prison.
Ce serait surprenant que Loukachenko s'en prenne à Svetlana Alexievitch. On sait qu'il est fou maintenant. Et s'il la fait arrêter, le monde entier comprendra à quel point c'est le fascisme qui règne dans notre pays. J'espère qu'elle n'aura que des sanctions. Mais tout est possible.
Hier, deux autres membres du Conseil de coordination avaient été pareillement convoqués. Ils ont chacun été condamnés à 10 jours de rétention et immédiatement incarcérés.
C'était Eric Biegala, accompagné de Gilles Gallinaro, envoyés spéciaux tous les deux en Lituanie, près de la frontière avec la Biélorussie. Vous pouvez retrouver le récit de cette attente angoissante de Svetlana Alexievitch dans la revue de presse internationale d'hier. Elle est en ligne sur franceculture.fr et évidemment en podcast. L'attente et la peur de la répression, voilà à une échelle bien moins lointaine le quotidien aussi de centaines de migrants. C'est dans le nord de la France. Toute cette semaine, nous leur donnons la parole dans la matinale de France Culture aux migrants et aux humanitaires qui les accompagnent. Tara Schlegel a ainsi rencontré une équipe de Médecins sans frontières à Grande-Synthe, installée trois fois par semaine dans le bois Puitouc. Elle nous raconte.
Beaucoup de bruit sous ce pont de l'autoroute A16, près des rails de chemin de fer qui ne sont pas protégés. Quelques 150 personnes attendent l'ambulance. Certains vendent du thé, d'autres des cigarettes. Il y a une douzaine de familles, au moins. Raya et son petit frère Mohamed viennent d'Allemagne. 4 ans, sans obtenir de papier. L'adolescente kurde raconte que ça lui plaît beaucoup ici, sauf quand il pleut, dans la tente. C'est le tour de Mohamed. Il a mal au ventre. Il voudrait que je vienne avec lui dans l'ambulance pour traduire, mais il a tout compris et il prendra son médicament matin, midi et soir. À l'intérieur, Christine et Bruno, les médecins bénévoles, achèvent leur 18e consultation. Bruno reste frappé par le nourrisson vu l'autre jour.
La dernière fois, la maman avec un bébé de 15 jours, était ballonnée, etc. Et en l'interrogeant, elle nous a bien expliqué qu'elle était obligée de faire bouillir l'eau du lac pour préparer ses biberons.
Le bébé avait bu de l'eau croupie. Il y a beaucoup plus de familles en ce moment, s'inquiète l'équipe lors du débriefing.
Des très jeunes et des très vieux, avant on n'en voyait jamais.
Elle souligne aussi de vrais soucis d'accès aux soins dentaires notamment.
C'est un sacré problème parce qu'on n'a que quelques jours seulement, un lundi ou mardi. Et il faut arriver très tôt le matin parce qu'il en prend 5 et puis terminé après.
On a un flyer qui leur indique comment se rendre à Calais, donc il faut qu'ils prennent le premier bus à 5h ici, à Auchan, 5h34 du matin. Le premier train part à 6h34. Et ensuite, ils doivent prendre arrivé à quelle gare le bus pour aller jusqu'à l'hôpital. Et tout ça à leurs propres frais.
Aux côtés de Taïeb, Aurélie Denoual coordonne le programme.
On a des expulsions qui se sont intensifiées petit à petit. Et là, par exemple, sur Calais, c'est toutes les 48 heures. Et donc les impacts, ils sont vraiment directs. Le fait que les personnes, elles vivent à la rue et elles n'ont plus un endroit pour pouvoir se poser et se protéger. Les personnes perdent leur traitement, perdent en fait les ordonnances, les rendez-vous. Et puis on a un impact aussi sur la santé mentale. Le fait que les personnes elles, ne puissent plus se poser dans un endroit aussi petit qu'une tente. Hein.
Avec d'autres associations, MDM a saisi le défenseur des droits pour dénoncer ces conditions indignes.
Se soigner malgré la précarité, c'était l'épisode 3 de notre série à retrouver en son et en images sur franceculture.fr. Au chapitre migratoire encore, je précise le renforcement annoncé de contrôles plus au sud, dans le bassin méditerranéen près de l'Espagne. Sur l'archipel des Canaries, les arrivées y ont été multipliés par 6 depuis le début de l'année. L'Espagne où par ailleurs le gouvernement annonce le recours à l'armée. L'armée pour aider les régions à lutter contre l'explosion de nouveaux cas de Covid-19. Ce pays-là mise tout sur un potentiel vaccin contre le nouveau coronavirus et la population apporte son aide en nombre. 4 vaccins sont testés en ce moment au Brésil. Il faut dire que le pays est le lieu idéal. Le nouveau coronavirus circule beaucoup et les médecins sont nombreux à ne
Partout au Brésil, on recherche activement du personnel médical pour tester les futurs vaccins contre le Covid-19. Pour les 4 essais cliniques actuellement en cours, il faudrait 30 000 volontaires et dans l'idéal du personnel de santé, explique Mauricio Zuma, il est le directeur du laboratoire de recherche médicale Biomanguinhos.
Les professionnels de la santé sont un des groupes les plus intéressants à tester. Ça ne sert pas à grand chose de tester le vaccin sur une personne qui va rester en confinement chez elle. Elle ne sera que très peu exposée au virus.
Et au Brésil, les gens sont volontaires. Aucune peur contre les vaccins. À l'image de la dentiste Denise Abranches, la première a testé au mois de juin le vaccin développé par l'Angleterre.
Je travaille dans une unité de soins intensifs qui lutte contre le Covid-19 depuis 7 mois. Et dès que j'ai su que la phase 3 des essais cliniques du vaccin de l'Université d'Oxford serait réalisée au Brésil, je me suis portée volontaire immédiatement.
En échange de sa bonne disposition, le Brésil a négocié un transfert de technologie pour 2 institutions scientifiques publiques. Le vaccin, développé par l'Université d'Oxford et le laboratoire AstraZeneca, comme celui de l'entreprise chinoise Sinovac, seront par la suite produits à Rio de Janeiro et à São Paulo. Un renvoi d'ascenseur dont le Brésil a bien besoin.
Faisons quelques petits pas plus au sud maintenant pour rejoindre l'Argentine où s'ouvre aujourd'hui le mondial de tango. En plein Covid, me direz-vous. Et oui, tout se fera à distance sur Internet, Caroline Vic.
Un mondial de tango totalement virtuel, une première et un défi pour la mairie de Buenos Aires, l'organisatrice de l'événement, Gabriel Soria, le directeur artistique du festival Tango Bea.
Le tango a quelque chose de merveilleux. En tant qu'art et culture propre, on arrive à le réinventer chaque jour parce qu'il compte en permanence sur des artistes et des créateurs de grands talents.
Une nouvelle méthode et de nouvelles règles du jeu. Les participants du mondial de tango ont dû envoyer une vidéo filmée depuis chez eux qui sera visionnée cette semaine par un jury. Mais c'est le public qui votera cette année lors de la finale pour le champion du monde. Mais il n'y a pas que la compétition. Parmi les activités proposées, des cours de tango par exemple. Et bien sûr, les professeurs ont dû s'adapter à ces circonstances exceptionnelles. C'est le cas de la danseuse Vanessa Vichalba qui donnera un cours samedi soir.
El público va a estar en su casa, así que también nosotros poder abrirles las puertas al.
Le public va être chez lui, donc on voulait le recevoir nous aussi chez nous. On a utilisé les lumières qu'on avait à la maison, on a fait quelques achats en ligne de micros par exemple pour que les gens nous entendent bien. On a poussé le canapé, on a poussé la table pour pouvoir filmer le cours. Donc vous aussi faites un peu de place chez vous pour pouvoir faire la chorégraphie.
Ce festival en ligne est donc une aubaine pour les amateurs de tango du monde entier qui pourront cette année profiter de tout le programme et pratiquer leur jeu de jambes gratuitement et depuis leur salon.
Et si vous l'êtes amateur, Guillaume, vous avez encore quelques jours pour vous préparer.
Mais vous avez déjà participé, vous, Clara.
La compétition dure jusqu'à dimanche, pas encore, non. Ouais, quelques mots de la météo. La météo qui danse aujourd'hui, le soleil en tout cas, est largement présent sur la France métropolitaine, plus encore sur le sud-est, 25 degrés à Nice et à Perpignan, 21 à Biarritz ce matin, à Lyon, à Strasbourg, comptez 18 degrés à Paris et Lille, 16 à Brest.